Excusez-moi. Bon, ce débat, il est important. Il est important parce que dans une société, s'il n'y a pas de culture, de toute façon, ça veut dire qu'il n'y a pas de société. Hein. Je veux dire, il ne faut pas chercher, c'est ce que tu disais, sur ta référence aux briques, on peut avoir des briques, faut-il les faire tenir ensemble? Il faut du ciment pour faire du ciment. Il y a ce qui fait le partage et ce qui fait que les gens se sentent en société. Alors après, tout peut être dans la culture ou rien. Et on peut aller jusqu'au bout. Est-ce que toutes les symboliques qui sont dans tous nos villages et qui font des références historiques, est-ce que c'est de la culture? Bon, est-ce que c'est de la mémoire? Est-ce que la mémoire, c'est de la culture? Est-ce que tout ce qui tourne autour du vivre ensemble, au travers d'activités quotidiennes, le café en Bretagne et la crêperie, sont-ils un élément de la culture bretonne? Ou est-ce que c'est de la culture? Ben oui, donc pourquoi pas. Donc si vous allez dans le fest-noz, ça c'est sûr. L'élément de la danse bretonne, c'est de la culture. Oui, ça faisait partie de la culture. Donc beaucoup de choses font partie de la culture au sens où c'est ce qui permet à tout le monde d'avoir une relation et d'entretenir la relation. Mais comme j'ai été ministre de l'Agriculture et que d'habitude je venais pour parler d'agriculture, je n'ai pas oublié, et en vous écoutant, je me disais comment je vais faire le lien. Alors, j'ai fini par trouver. Je partirai de l'idée de cultiver et être cultivé. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'être ? Alors, je vais mettre de côté, je vais y revenir à être cultivé. C'est d'avoir fait normal sup. Mais cultiver, qu'est-ce que ça signifie au sens étymologique du terme ? Enfin, au sens où on pourrait le lier d'ailleurs à agriculture, cultivateur et cultiver la terre. Très beau terme, cultiver la terre. Quand on réfléchit, et qu'on se réfère d'ailleurs à l'histoire et à des économistes bien connus en France qui appelaient les physiocrates considéraient que seuls étaient créateurs de richesses, je vais y arriver, seuls en économie la création de richesses venait de l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que c'était la seule activité qui faisait que quand je mettais une graine, à l'époque, je pouvais en récolter 3. Et ils appelaient ça d'ailleurs le don de Dieu. Le docteur Quesnay, qui a écrit le système Quesnay des physiocrates français et qui appuyait toute l'économie sur la question agricole. Ce qui fait d'ailleurs que longtemps, la France est restée d'abord un pays agricole. Mais cultiver et être cultivé, quel va être le lien entre les deux? À mon sens, hein. Après, je n'ai pas écrit de thèse, je n'ai pas réfléchis au-delà de ce que je vais vous dire, mais c'est qu'il y a l'idée de la multiplication, de la progression, de la création. Puisque une graine, j'en veux 3. Je vais cultiver mon savoir, c'est que je vais le faire progresser. Je vais cultiver ce que je souhaite développer, c'est le développement, c'est le progrès. C'est pour ça d'ailleurs que le lien entre la culture et le progrès est toujours un lien extrêmement fort. Et à partir de là, dans une politique locale comme dans une politique nationale, et je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus de politique de la culture au niveau national, c'est très clair, on est parti dans des trucs où on confond à la fois l'offre culturelle et la demande, les outils culturels et souvent le patrimoine, tout est confondu. Qu'est-ce qui fait le lien et qu'est-ce qui fait que on veut chercher à multiplier quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut multiplier? C'est ça la question de fond. On regarde les choses là qui sont avec l'affiche, la peinture, la littérature, le théâtre. Moi, ça m'a frappé, ça. Et je vais en venir à ma politique locale, hein, quand même, parce que je n'ai pas oublié pourquoi je suis là et ce que m'a demandé Françoise. Mais ce qui me semble le plus important, pour dépasser le côté de la culture au quotidien, qui est facile et qui est répétitif, c'est d'intégrer dans la dimension de la politique culturelle le fait de susciter la curiosité. Parce que le pire dans une société, c'est quand les individus n'ont plus envie d'être curieux, ni pour les autres, ni pour eux-mêmes. Donc, si je fais le lien, cultiver, être cultivé, c'est développer, c'est multiplier. Et donc, c'est chercher à développer la curiosité. Jamais laisser les gens s'enfermer. Et pour en revenir à des questions d'aujourd'hui, Pourquoi la culture est importante? C'est pour éviter que chacun tombe dans une logique d'enfermement, souvent identitaire, par rapport à une histoire, par rapport à une mémoire, par rapport à des symboles, par rapport à tout un tas de choses, aux religions. C'est ça qui fait que la culture est importante. C'est que contrairement à ce qu'on croit, il faut être cultivé pour être ouvert. Et on pourrait croire qu'il faut être ouvert pour se cultiver. C'est pas vrai. À mon avis, hein. Et c'est pour ça que c'est pas toujours facile dans certains milieux d'avoir des gens ouverts. Parce que si le préalable n'est pas celui de la culture, on a du mal à accéder. Ils sont assez enfermés dans ce qu'ils connaissent et ils n'en sortent pas. Le fait d'avoir une politique culturelle, c'est de faire en sorte que les citoyens restent toujours ouverts et curieux. Voilà, c'est ça, moi, qui fait la définition que je pense de la culture. Et pourquoi au niveau local, alors comment ça se décline? Ben, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà une politique culturelle, hein, comme c'était rappelé. On avait obtenu, quand j'étais ministre, le fait qu'on ait une scène nationale. On a une SMAC maintenant, c'est une scène de musique actuelle. On a, à partir de là, trois musées, il y en avait quatre. Il y en a trois, il n'y en aura plus que deux, je le dis au passage. Mais ils sont tous gratuits. Il y a une médiathèque, il y a trois médiathèques, donc bibliothèque, médiathèque, il y a un conservatoire, bien entendu, il y a un grand espace qui était celui, pour ceux qui connaissent bien le théâtre, de François Tanguy, le Radeau, donc avec une grande compagnie, un espace, la Fonderie, de création théâtrale, plutôt spécifique et moderne, qui a été longtemps un lieu extrêmement prisé. François Tanguy est décédé il y a l'an dernier, et la communauté théâtrale était là au Mans présente. Bon, donc il y a eu toute une culture qui s'est construite. Mais comme tout cycle culturel, il est arrivé à un moment où il faut le renouveler. Bon, donc moi, il faut s'appuyer d'abord sur ce qui existe et pas chercher à inventer des choses totalement nouvelles, même si j'ai inventé des choses nouvelles. Et toujours avec ce principe. Qu'est-ce qui va faire que les grands sujets nouveaux qu'on va installer dans la ville vont être capables d'intéresser et de rendre les manselles et les manceaux curieux? Et aussi, et c'est là que j'en reviens à ce que disait Françoise, quand elle disait « mais oui, mais quand il y a une file d'attente, les gens qui viennent, et c'est pour ça qu'il y aurait besoin d'avoir aussi des lieux de culture beaucoup plus décentralisés pour que des gens viennent, et la file d'attente fait que les gens consomment, fait que les gens dorment, et c'est tout à fait vrai, tu vas voir, je vais t'en donner des exemples. » C'est que la culture est un élément d'attractivité. C'est-à-dire, comment je fais pour que les Mansels, les Manceaux, les Sartois et les Sartois soient plus curieux? Mais comment je fais pour que ceux qui n'habitent pas le Mans et qui n'habitent pas la Sarthe soient curieux aussi de venir en Sarthe et au Mans? Voilà, c'est ça le sujet. Donc là, il y a un mélange sur la politique patrimoniale, il y a un mélange sur la politique culturelle et il y a bien sûr la création d'événements spécifiques. Quatre grands piliers font aujourd'hui la politique culturelle qu'on est en train de mettre en place. Le premier, c'est le cirque. Le cirque a été une création de Jean-Claude Boulard. Et nous sommes là, aujourd'hui, et ça fait un mois et demi, pôle national du cirque. Il y en a 13 en France. Donc déjà, à la fois 10 ans de travail, on arrive à avoir un niveau de pôle national. On a créé un super chapiteau permanent qui nous a coûté 3-4 millions, je reviendrai au coût de la culture. Un magnifique chapiteau en bois, bien sûr, et qui fait qu'on a un festival du cirque qui est le 2e, 3e festival à l'échelle nationale. Le cirque, et ce qu'on appelle la culture circassienne en France, est très importante. On fait partie des pays qui, dans la création circassienne, ont été dans les premiers à faire évoluer le cirque tel qu'on l'a connu quand on était petit à la piste aux étoiles, avec simplement les animaux et tout ça. Ça évolue et ça a changé. Et il y a une création circassienne qui est extrêmement intéressante. Et ce pôle national du cirque, il est dans un quartier QPV, qu'on appelle quartier politique de la ville, c'est-à-dire quartier difficile, pas loin. Et on essaye de faire un lien entre eux, les populations et la jeunesse, au travers des politiques, je vais revenir, de l'État, pour intéresser des gens et jouer de la mixité entre des familles qui viennent du centre-ville et celles qui viennent du quartier. Faire en sorte qu'il y ait des zones de friction où les gens se rencontrent. Toujours pareil, susciter la curiosité, sortir les gens de leur propre enfermement et faire en sorte qu'ils aient d'autres contacts pour pouvoir s'ouvrir et rester ouverts. Parce que ce que je vois, dans les quartiers en particulier, aujourd'hui, c'est que tout quartier difficile est un quartier dont on ne veut plus sortir. Il y a des gens, on me racontait qu'il y avait un jeune, alors l'Aiglonnière, c'est un des quartiers du Mans. Et il était en cours et à l'école, et il dit « je suis allé au Mans ». Parce qu'il était allé au centre-ville. Il a pas insisté, tu dis non, non, mais t'es au banc, moi, quand t'es au Gléan. Ah ben non, ah bon ? Donc il y a une forme d'enfermement. Et si la culture a un sens, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on joue. Donc, le pôle du cirque. Le deuxième grand pôle structurant, alors de celui-là, il existait. Puis moi, j'en ai créé trois. Le plein champ, qui est un moment événement autour de l'art urbain, dans un grand parc, c'est pour ça que je l'appelais plein champ, où on a cherché à faire venir des artistes du street art, et je voulais pas avoir ces références au land art et tout ça, donc on a mis des murs, on a créé un grand cube, et pendant tout un week-end, des artistes de la France, de l'Europe et du monde maintenant, puisque là c'est pareil, on est devenu, pour ceux que j'entends des artistes que je connais maintenant, un des lieux de street art les plus réputés, parce qu'en plus, il permet d'avoir, dans un parc de 17 hectares, des lieux d'expression créative pour les artistes, et en même temps, c'est devenu un lieu de balade. Et fierté, le dernier plein champ que nous avons fait, après avoir commencé il y a 4 ans, on a fait plus de 43 000 personnes qui sont passées pendant le week-end. 43 000 personnes, dont des gens du quartier, qui avant considéraient le street art comme des graphes et que c'était dégueulasse, et qui au fur et à mesure s'approprient eux-mêmes et mesurent les évolutions, font des références, font des comparaisons. Ça m'avait frappé quand j'étais ministre, ou même avant que j'étais député européen, j'allais à Marciac avec le festival de Marciac que tout le monde connaît. Les paysans du coin, ils étaient plus calés en jazz que moi, et largement, hein. Et je me disais, s'ils n'étaient pas de Marcillac, ils seraient ailleurs. Et si je prends les producteurs de maïs ici ou ailleurs, en musique bretonne peut-être, mais en jazz, pas sûr. Parce qu'il n'y a pas un événement qui crée un lien direct avec l'appropriation culturelle qu'on peut faire. Et on va dire, ils n'y connaissent rien, ou c'est des bouseux, mais dès qu'il y a un événement qui vient, on s'aperçoit que les bouseux, ils sont capables de s'ouvrir. J'en reviens toujours au même problème, hein. Ouvrir les gens, leur permettre de s'ouvrir. Donc ça, c'est plein champ, et là, ça monte, et du coup, on décline ça avec, bien sûr, des pans de murs pour rester dans l'esprit du street art urbain. Et ça, ça m'a frappé aussi, dans tout le département maintenant, les maires font appel aux organisateurs de plein champ pour aller à La Flèche, à La Ferté-Bernard, à Télocher, tous les endroits que je pourrais vous citer, pour demander que des artistes viennent peindre maintenant dans les villages. Et grâce au CLEAC, qui est une politique culturelle de diffusion de l'action culturelle dans l'école, on a réussi à passer de 400 élèves à 1200 élèves aujourd'hui qui sont sensibilisés à l'activité de création de l'art urbain, du street art, et qui peignent aujourd'hui. Et on va développer une stratégie à l'échelle de la métropole maintenant. Et puis après, on verra, puisque ce n'est plus notre compétence, hein, au-delà de la métropole, sachant que ça, c'est la ville, hein, toujours du Mans, qui paye. Plein champ, c'est totalement gratuit. Vous rentrez dans le parc, il y a 17 hectares, vous vous baladez pendant tout le week-end. Bien sûr, il y a des bars associatifs pour avoir des bières à pas cher. Hein, et donc, ça permet à tout le monde aussi d'allier ce qui est la culture facile du partage d'un verre avec la culture plein champ et les arts du street art. Mais plus de 42 000 personnes, 43 000, puisque c'est à peu près le score qu'on a fait. Là, on commence à atteindre un grand événement culturel. On l'a maintenu alors qu'on était en plein des émeutes, hein. Et le maire que je suis a passé 2 nuits à suivre avec le préfet, la police et tout ça pour les émeutes. Et quand il venait à plein champ, il avait l'impression d'être dans un autre monde. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment deux France là, hein. Deux moments, deux temporalités. Et qu'est-ce que c'était que plein champ ? Je reviens à ce que je disais. C'est des gens qui étaient là, contents d'être là et très ouverts. Et les autres, ils étaient en colère, ils en voulaient à quelqu'un. Bon ben, je ne vais pas m'étendre, mais vous voyez bien que c'est comme ça. Donc, le cirque, le street art. Ensuite, troisième grand événement qu'on est en train de monter au travers d'un laboratoire. Alors, c'est là que la science et la culture ont un lien aussi. La Biennale du son du Mans, je souhaite qu'on devienne une capitale du son parce qu'on a un laboratoire universitaire d'acoustique qui est un des plus performants à l'échelle européenne et même mondiale. Puisqu'on est labellisé CNRS, Et dans le domaine de l'acoustique, c'est le laboratoire d'acoustique à l'échelle nationale et à l'échelle, je vous l'ai dit, européenne. On a une salle, la plus grande salle d'Europe semi-anéchoïque, et tout le monde sait ce que c'est, bien sûr. Eh bien, c'est pas bien. C'est une salle sourde, en fait. C'est une salle qui renvoie aucun son. Et quand vous rentrez dans une salle sourde, semi-anéchoïque, c'est-à-dire sans retour du son, ça fait une impression très bizarre. Et on a donc créé les premiers concerts dans des salles semi-anéchoïques à l'échelle mondiale. Et donc, on a fait des trucs autour de ça. Bon, bref, la Biennale du son Le Mans sonore, alors, comme honorifique et en même temps sonorité, elle a vocation à développer toute une stratégie qui part de la science et qui va aller vers l'acoustique pure, la création acoustique, le design sonore, puisqu'on est une école des beaux-arts qui travaille sur le design sonore. Il faut savoir que, par exemple, les Zoé électriques que vous connaissez bien, elles font un bruit. Il ne faut pas croire que c'est la voiture. Hein ? Ça fait un bruit, ça fait un espèce de bruit métallique. Il ne faut pas penser que c'est le bruit de la voiture. Hein ? C'est un bruit créé. Et qu'avec l'électrique, d'ailleurs, il y a du design sonore qui est en train de se développer pour créer des bruits. Et tout le monde croit que ça fait ce bruit-là. Ben non, pas du tout. Hein. Ça fait aucun bruit, en fait. Bon. Donc, le design sonore se développe autour de l'acoustique. Et puis, bien sûr, la partie musicale, les électroniques, les parties musique électronique et les performances acoustiques. Et c'est là que même moi, qui n'y connais rien, au fur et à mesure que je découvre des spectacles autour de ces performances acoustiques, je finis par être curieux, pour revenir à ce que je vous disais, et à commencer à me dire, ben oui, c'est quand même assez génial. Biennale du son, elle va avoir lieu là en janvier, et ça sera la troisième. On est en train de créer, donc on aura un grand partenariat avec Radio France de manière générale. Ça aussi, ça montre le fait que ça commence à bouger, que sur les performances acoustiques, on a une quinzaine, une vingtaine de lieux où s'exercent donc ces acousticiens pour faire des performances acoustiques. On a eu pour chaque lieu pratiquement 20 à 30 projets.